bon réveil, merci d'écouter RFI. Les 5h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Uvira. Et il est bien là comme promis, voici Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
On s'intéresse ce matin donc à la situation d'Uvira dans l'est de la RDC.
La deuxième ville du Sud Kivu, d'après nos informations, les violences et pillages signalés ces derniers jours y ont fait au moins une vingtaine de morts. Le maire adjoint dit être en train de reprendre la situation en main et il met en cause des soldats congolais. Alors que de son côté, le président de RDC, Félix Tshisekedi, répète qu'il ne négociera pas avec le M23, le groupe armé soutenu par le Rwanda qui occupe aujourd'hui une partie des provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans ce journal également, l'Afrique du Sud et la présentation du budget retardée à cause de différends au sein de la coalition au pouvoir. Vous entendrez aussi un proche de Kizza Besigye, satisfait que l'opposant ougandais ait cessé sa grève de la faim, mais pessimiste face au procès qui l'attend désormais devant un tribunal civil. Dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Victor Missistrano. On retournera en RDC. Et on vous expliquera pourquoi le derby de Lubumbashi aujourd'hui entre le tout-puissant Mazembe et Saint-Éloi Lupopo se jouera à huis clos. Ce serait nous humilier en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi répète que pour lui, il est impensable de dialoguer avec le M23, le groupe armé qui occupe une partie des provinces du Nord et du Sud Kivu, et que le chef de l'État congolais qualifie de pantin, comprendre aux ordres du Rwanda. Le président Félix Tshisekedi, qui s'exprimait hier devant les parlementaires de sa majorité, il a également promis une refonte de l'armée, estimant que les FARDC étaient trahis de l'intérieur. Des militaires congolais qui n'ont pas réussi à contenir l'avancée ces dernières semaines des hommes du M23 à Goma et à Bukavu, les deux capitales provinciales, des Kivu notamment. Des soldats congolais qui sont par ailleurs mis en cause dans les scènes de pillage et de violence qu'a connu la ville d'Uvira ces derniers jours. Des violences qui ont fait au moins une vingtaine de morts d'après nos informations. Coralie Pierré.
Nous reprenons en main la situation petit à petit, expliquait à RFI le maire adjoint de la ville d'Uvira resté sur place. Selon plusieurs sources, dont un administrateur local, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et une centaine blessées dans les troubles de cette semaine. Des troubles et des pillages attribués par le maire adjoint à des militaires qui ont désobéi et qui ont terrorisé Uvira, une ville située en face de la capitale burundaise Bujumbura et à proximité de la plaine de la Ruzizi. Cette vallée fait frontière entre la RDC et le Burundi, dans laquelle étaient postées des troupes burundaises sur invitation de Kinshasa et dans laquelle d'importants mouvements de soldats burundais ont été signalés cette semaine. Sont-ils toujours présents dans la plaine et dans les hauts plateaux? Dans cette zone montagneuse du Sud Kivu, des combats ont eu lieu vendredi dans la commune rurale de Minembwe. Ils ont opposé militaires congolais alliés à des miliciens pro-gouvernementaux contre un groupe d'autodéfense, les Twirwaneo, en lien avec le M23. Ces affrontements ont eu lieu 2 jours après la mort du chef des Twirwaneo, Michel Rukunda, alias Makanika, tué par une frappe de drone. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et notez que sur les autres fronts de l'Est congolais, dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero et de Masisi, aucun combat n'a été signalé ces 2 derniers jours. C'est dans ce contexte que démarre aujourd'hui à Kigali le Tour cycliste du Rwanda, 17e édition, qui passera 3 jours dans la zone de la frontière avec la RDC. Alors que les événements et les partenariats sportifs font partie intégrante de la stratégie diplomatique du Rwanda, la RDC tente-t-elle de faire pression justement sur Arsenal, le PSG ou encore la Fédération internationale automobile pour qu'ils cessent leur collaboration avec Kigali? Et ce matin, le gouvernement rwandais répond à Kigali, correspondance de Lucie Mouillot.
Selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, Kigali rejette la politisation par Kinshasa de ses partenariats sportifs avec différents clubs de football ou organisations, comme l'Union cycliste internationale ou la NBA.
Les efforts du gouvernement de la RDC à saper ces collaborations, je dirais qu'ils déforment la vérité. Cette façon de faire, de toute façon, ne va pas résoudre les problèmes d'insécurité qui se posent dans la région. C'est une façon de fuir ses responsabilités, c'est un manque de volonté politique au lieu de résoudre des problèmes qui lui sont posés par sa propre population. Aujourd'hui, on ne comprend même pas.
À ce jour, selon le porte-parole, aucun partenaire sportif du Rwanda n'a remis en cause sa collaboration avec Kigali, même si des discussions ont été engagées suite aux lettres reçues de la part du gouvernement congolais.
Je ne pense pas qu'il y ait des risques parce que les partenaires, eux aussi, ils vont poser des questions. quitte à venir sur le terrain pour voir ce qui se passe d'abord au Rwanda concernant la sécurité, parce que c'est le plus important. Donc je me dis que si ces partenaires prennent la peine de vérifier les demandes des FARDC, sûrement qu'ils vont trouver que c'est déséquilibré et que donc il n'y a pas de menace à ce que les partenariats s'arrêtent.
Sur le plan diplomatique, cette semaine, des ambassadeurs du Rwanda ont été convoqués par les gouvernements britanniques et allemands ainsi que l'Union européenne, qui condamnent dans des communiqués les avancées du groupe armé du M23 et demandent le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Simuyo Kigali, RFI.
À Kigali, il est 6h35, 7h35 à Kampala, des nouvelles de Kizza Besigye, l'opposant ougandais qui a décidé avant-hier de stopper sa grève de la faim après que les autorités ont finalement accepté qu'il ne soit plus jugé par un tribunal militaire mais par une juridiction civile, conformément à un arrêt de la Cour suprême le mois dernier. Kizza Besigye est désormais sous le coup d'accusations de haute trahison. Ses proches se disent soulagés qu'il ait recommencé à s'alimenter, mais ils ne se font guère d'illusions sur ce que sera son procès. Écoutez par exemple Harold Kaija, secrétaire général du People's Front for Freedom, le nouveau parti fondé par Kizza Besigye.
Nous sommes soulagés qu'il ait mis fin à sa grève de la faim. Vendredi, il s'est présenté au tribunal en fauteuil roulant, très affaibli, et on pouvait voir qu'il était malade. Il y a quelques jours, nous avons déposé une requête pour contester la légalité de sa détention. Mais le juge l'a rejetée, même après avoir observé la fragilité du docteur Besigye, en lui ordonnant de retourner en prison au lieu de l'envoyer à l'hôpital. Bien que les tribunaux civils offrent un semblant de justice, le président Museveni contrôle tout dans ce pays. Il suffit d'examiner les chefs d'accusation retenus contre Dr Besigye. Initialement, il était question de trahison, incluant des allégations de possession d'armes, tandis que la nouvelle accusation parle de haute trahison, sans aucune référence aux armes. Cette modification apparente révèle une mise en scène destinée à orienter la procédure judiciaire. Nous sommes donc environ 30% optimistes quant à l'issue de ce procès et nous laissons les 70% restants entre les mains de Dieu.
Le secrétaire général du parti de l'opposant ougandais Kizza Besigye, joint par Christina Okello. L'Afrique du Sud apprend à vivre avec un gouvernement de coalition et avec des partis qui peuvent exprimer des désaccords. Illustration, la semaine dernière, le ministre des Finances devait, comme chaque année, présenter son budget devant le Parlement, sauf qu'au dernier moment, et c'est une première dans l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid, le discours a été annulé à cause d'un désaccord au sein du gouvernement sur des questions fiscales. Il faut désormais renégocier avant de retourner devant le Parlement. Correspondance de Claire Bargelès.
Le principal point de désaccord, c'est la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Cet impôt payé par tous sur les biens consommés et les services utilisés. Elle aurait dû, selon les plans de l'ANC, passer de 15 à 17%. Une mesure impopulaire mais nécessaire pour le président Cyril Ramaphosa afin de financer le budget sans toucher à la dette.
Aucun ministre des Finances n'en vient à augmenter volontairement les impôts, sauf s'il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre alternative. Nos recettes ne sont pas suffisantes pour financer toutes nos priorités et nos ambitions.
L'ANC ne gouverne plus seul depuis l'année dernière, puisque le parti historique de Nelson Mandela a perdu la majorité absolue au Parlement. Et au sein de la coalition, c'est entre autres l'Alliance démocratique qui s'est opposée à la mesure, la deuxième formation politique du pays de tendance droite libérale. D'après son dirigeant et ministre de l'Agriculture, John Steinhausen, il faudrait couper les dépenses de l'État plutôt que d'augmenter les recettes.
Nous devons réduire le nombre de fonctionnaires ainsi que la taille du gouvernement. Ce sont des réformes courageuses que d'autres pays ont mis en place. Si l'on prend des pays qui nous sont similaires comme l'Argentine, ils ne font pas de changement à la marge, ils prennent des décisions difficiles.
Une autre solution serait la mise en place d'une taxe sur les plus grandes fortunes, mais les partis de la coalition craignent une fuite des capitaux. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et puis en Côte d'Ivoire, le festival Abidjan du Rire fête depuis vendredi son 10e anniversaire. 3 jours de spectacles d'humour, bien sûr, mais aussi de danse parfois. Cet après-midi, par exemple, verra le Camerounais Docta Kevin recevoir son prix RFI Talent du Rire 2024. Et c'est aussi l'occasion de revenir sur les 10 années de cet événement créé pour tenter de mettre en valeur et de structurer le milieu artistique local ivoirien. Reportage de Binta Diagne.
À l'origine, ce festival vise à donner une scène pour les humoristes du continent. Initiateur de cet événement, l'humoriste nigérien Maman pense naturellement à Abidjan, où la culture du rire est déjà bien ancrée dans la société. On est alors en 2012, au lendemain de la crise post-électorale. Maman.
Tous les gens étaient partis, les techniciens, les comédiens qui pouvaient. Tous les festivals qui existaient avant s'étaient arrêtés, faute de moyens.
Le festival trouve rapidement ses marques et relance une expertise technique au niveau local, comme le constate Catherine Guérin, productrice de Gondwana City.
En 10 ans, les spectacles sont mieux organisés. On fait appel à des prestataires qui sont désormais locaux et formés pour faire de la création lumière, pour faire des régies plateaux, enfin tout cet écosystème autour du monde du spectacle.
Si à 60 ans dépassés, eux ils dansent comme ça là. Nous pour nous là, mais ça sera comment?
En 10 ans, de nombreux talents ont été révélés sur cette scène et Maman observe par ailleurs un changement de profil des artistes.
Avant c'était réservé à une couche populaire. Je vois le profil sociologique des humoristes, des candidats à ce métier changer. Il y a des gens qui viennent de la classe aisée, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent.
Cet après-midi, plusieurs humoristes s'affronteront autour d'une battle sur le thème « Les riches contre les pauvres », ce face-à-face en danse et en chant, et surtout l'occasion de faire la promotion du vivre ensemble dans la société. Binta Diane, Abidjan, RFI.
À Abidjan, où il est 4h41, une heure de plus ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin à suivre, reportage à Dakar avec ceux qui essayent de faire vivre le jazz à l'africaine. On s'intéressera aussi à l'œuvre de l'écrivain mozambicain Dambunzo Marechera et en particulier à ses poèmes tout à l'heure dans la chronique Chemin d'écriture. Mais tout de suite, ce sont les sports. Les sports avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous.
La marche était trop haute pour le boxeur.